Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, il est 18h sur Radio Campus, bienvenue à bord du Pédalo.
Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le Pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Et au programme de cette émission, La Topette est de retour. Le magazine d'enquête Angevin publie son 21e numéro, un numéro consacré entre autres au milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin et de sa conquête de l'Anjou. On en parle avec le rédacteur en chef Julien Collinet. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du mardi 16 septembre, alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Il est enfin disponible, de qui je parle, et bien du dernier numéro de La Topette. Le journal Angevin sort son 21e numéro, 16 pages où l'on parle livraison de colis, dérive sectaire, mais aussi d'un homme, celui qui fait la une du magazine, le milliardaire réactionnaire Pierre-Édouard Stérin, qui, si on en croit, la une serait à la conquête de l'Anjou. Bonjour, je vais y arriver, pardon. Bonjour Julien Collier.
Bonsoir Simon.
Alors tu es rédacteur en chef de La Topette, donc dans le numéro de ce trimestre, il y a, on l'a dit, un homme qui est mis en avant, c'est le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin, dont l'influence est grande à Angers, on aura l'occasion de développer. Mais avant je me demandais, c'est facile d'enquêter et d'écrire sur quelqu'un comme Stérin ?
C'est toujours compliqué d'enquêter sur l'extrême droite, après il faut quand même avouer que Pierre-Édouard Stérin c'est pas quelqu'un qui est discret. Il a quand même beaucoup fait parler de lui ces derniers mois depuis qu'on connaît l'existence de son projet Périclès, projet qui vise à amener l'extrême droite au pouvoir, en tout cas de gagner un certain nombre de mairies en France. Après, ce qui a été difficile, en revanche, c'est sur la partie dont on parlera tout à l'heure, sur l'Université catholique de l'Ouest, où là, c'était très caché. Mais non, sinon, pour voir les investissements, non, c'est plutôt transparent là-dessus, parce que les investissements aussi qu'on a regardés au cours de cette enquête, ce sont des investissements purement financiers, où là-dessus, c'est très transparent. Il suffit de regarder un peu les comptes de son fonds d'investissement. En revanche, tout ce qui est mécénat ou tout ce qui est en tout cas plus politique, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais.
Et donc, c'est Pierre-Édouard Stérin qui est mis en avant sur la une avec un dessin très chargé. On le voit donc muni d'une auréole, lui qui rêve d'être canonisé. Et tout autour de lui, beaucoup d'éléments. On a l'Université catholique, bien sûr, et on a des kartings, des pommes de terre et même Fort Boyard. Alors tout ça, ça semble pas avoir beaucoup de sens, mais en fait, si, déjà pour la présence de l'Université catho. Alors, on apprend dans La Topette qu'il finance l'établissement et puis apparemment, il y a quelques minutes, on a appris que finalement, ça allait un peu changer.
C'est ça, ce qu'on a révélé. En fait, ça, c'est quelque chose qui était complètement caché. C'est qu'il existe depuis fin 2022, hein, ce qu'on appelle un fonds de dotation, pardon, qui a été créé pour financer notamment l'Université catholique de l'Ouest. Et il se trouve que derrière ce fonds se trouvait, au sein du conseil d'administration et parmi les fondateurs, le principal outil de mécénat de Pierre-Édouard Stérin qui s'appelle le fonds du bien commun. Donc voilà ce qu'on révèle. Alors pour l'instant, pour être tout à fait clair, au moment de sortir l'enquête, c'était pas des montants énormes. On était autour de quelques centaines de milliers d'euros, pardon, ce qui est relativement modeste par rapport au budget de l'Université catholique de l'Ouest, qui est lui de 50 millions d'euros par an. Mais ce que la Cato expliquait aussi, c'est qu'en fait, d'ici quelques années, d'ici 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, ce fonds devait atteindre 20 millions d'euros. Donc là, les actifs de ce fonds de dotation, excusez-moi, c'est un peu technique, devaient atteindre 20 millions d'euros. Donc on aurait été sur une toute autre échelle. Et là, oui, effectivement, breaking news, en fait, je peux vous expliquer qu'il y a à peu près une demi-heure, il y a un mail qui a été envoyé à tous les étudiants et salariés de l'UCO et le recteur, M. Péridi, annonçait que l'Université catholique de l'Ouest renonçait à faire appel à ce fonds de dotation et donc au financement issu de la fortune de M. Stérin.
Parce qu'il ne s'en cache pas, hein, lui, Stérin, il a un but, c'est celui d'installer l'extrême droite au pouvoir en France, donc via le projet dont tu parlais, Périclès. Et donc le fait qu'il veuille financer comme ça des établissements, parce que bon, là, ça aurait pu être le cas de la Cato d'Angers, mais ça peut très bien être le cas ailleurs, ça va lui servir à quoi? C'est vraiment pour de l'influence?
C'est pas anodin du tout. Il y a plusieurs axes dans la politique, en tout cas dans la vision de Pierre-Édouard Stérin pour porter l'extrême droite au pouvoir, et notamment les médias, la culture. sûr, mais surtout pour lui, la première de ses batailles, il le dit, hein, il a écrit des textes là-dessus, c'est vraiment la formation et l'école. Donc pour lui, c'est la façon de gagner sa guerre culturelle, sa bataille d'idées, ça passe avant tout par l'école. Et quand on met les pieds à l'Université catholique de l'Ouest, qui est une institution réputée, qui fournit des diplômes qui sont validés par l'État, c'est-à-dire que l'Université catholique de l'Ouest passe des partenariats avec d'autres universités pour avoir, en fait, délivrer des diplômes qui ont exactement la même valeur que si vous alliez dans une université publique, c'est pas anodin du tout. Donc on aurait pu avoir la crainte que l'influence de Pierre-Edouard Stérin gagne de la place au sein du CO, c'était une possibilité, et pourquoi pas former des élites ensuite pour intégrer, en tout cas porter ces idées réactionnaires.
Et même si ce qui donnait jusque-là était très faible, Luco évidemment s'est défendu de toute influence, mais pourtant dans la topette on a le recensement de pas mal de profils d'enseignants qui sont quand même plutôt sulfureux.
Bah voilà, c'est ce qu'on explique, c'est quand même l'Université catholique de l'Ouest a tout de même une réputation historiquement plutôt progressiste pour un institut catholique. Mais il y a quand même eu un virage ces dernières années, et Pierre-Edouard Stérin arrivait à l'UCO dans une place où, quand même, dans une institution où l'extrême droite s'était déjà fait un peu sa place, notamment c'est ce qu'on explique dans notre enquête, au sein de la faculté de droit et sciences politiques. On a à peu près pu recenser, retrouver, identifier en tout cas une quarantaine de profs qui enseignent dans ces licences et de droit et de sciences politiques. Et en gros, ce qu'on révèle, c'est qu'il y en a à peu près une quinzaine, ce qui n'est pas rien, c'est quand même important, qui sont proches de mouvements catholiques traditionnalistes, voire d'extrême droite ou de droite.
Et ça va même très loin avec un directeur de master qui a carrément été condamné pour des publications racistes.
C'est ça, il y a un directeur de master à Nantes qui a été recruté cette année comme maître de conférence. Et en gros, je vais la faire court, mais il y a une dizaine d'années, il a tenu un compte sous pseudo où il tenait des propos d'une violence inouïe, lui-même sur son profil Twitter en l'occurrence. Il se déclarait comme raciste, antisémite, misogyne. Pour vous continuer de dresser un peu le tableau, sa photo de profil, c'était une image qui représentait Adolf Hitler avec des étoiles de David à la place des yeux. Enfin, c'est vraiment ahurissant. Alors, c'était il y a une dizaine d'années, certes, ce monsieur était jeune. On pourrait croire à une erreur de jeunesse. Mais il se trouve que nous aussi, on a pu identifier que cette personne avait manifesté aux côtés en soutien à Génération Identitaire il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, j'ai le journal sous les yeux, c'était début 2021, quand Génération Identitaire a été dissous par Gérald Darmanin. Il se trouve que ça a créé un fort émoi au sein du campus de l'UCO Nantes, là où exerçait ce monsieur, et il a depuis nous a informé l'UCO, posé sa démission.
Et alors, tous ces profils-là, est-ce qu'on imagine que ça peut se ressentir aussi dans les enseignements? Est-ce que le fait qu'il y ait ces profs fait qu'il y a des enseignements qui sont très orientés?
Alors, moi, j'ai pu échanger quand même avec pas mal d'élèves. Eux trouvaient que, contrairement à ce qu'on a pu expliquer, quand cette licence Sciences Po s'est lancée, il y a eu des gros, gros soucis avec des vraies fortes tensions au sein de la promotion. Je crois qu'il y a quand même une vigilance là-dessus. Les étudiants clairement m'expliquait que oui, ils se rendaient bien compte que certains de leurs profs étaient très très marqués à droite. Après, par contre, ils ne remettaient pas en cause, ils estiment avoir une bonne qualité de formation. Toutefois, il y a quand même, nous, des intitulés de cours qui nous posaient question. Il y a notamment un cours sur le communautarisme qui est vraiment très orienté, en tout cas d'après le syllabus qu'on a pu consulter sur le communautarisme musulman. Voilà. Après, le prof se défend, lui, de faire ça dans le respect des règles académiques.
Et est-ce que Luco, de son côté, défend et assume la présence de ses enseignants, ou est-ce qu'elle essaye aussi de le cacher? Enfin, de cacher leur passif, en tout cas.
Bah, c'est difficile, mais c'est marrant parce qu'en fait, je parlais encore avec un étudiant hier et qui me disait que, bah, en fait, eux, ils ont appris un peu à aller regarder les CV de leurs profs, à aller éplucher leur profil Twitter, des fois tomber sur des horreurs. Donc, c'est marrant parce que même les étudiants ont pris ce réflexe-là, en fait, et avant que sorte notre enquête. Et non, c'est pas forcément vu au-dessus de tout le monde. Nous, ça nous a pris énormément de temps un peu pour éplucher ces profils, enquêter sur eux. Donc, c'est quand même pas forcément accessible.
Et les étudiants, eux, en général, ils sont plutôt réticents à l'idée d'avoir ce genre, enfin ceux avec qui tu as pu échanger, d'avoir ce genre de prof, ou est-ce que finalement certains se disent bon bah on s'en fiche, on est là pour aller en cours et peu importe qui nous donne cours?
Je pense que ça dépend aussi des opinions politiques de chacun, hein. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est que oui, ça les dérangeait, mais justement, en fait, ça a développé leur esprit critique parce qu'ils allaient d'autant plus méfiants sur ce qu'allaient dire les profs et vérifier les sources, etc. Donc, au contraire, ça, on pourrait même voir ça comme un exercice pédagogique assez intéressant.
Est-ce que ça crée pas aussi du clivage au sein des promotions avec certains qui sont très contents d'avoir ce genre de profs, d'autres pas du tout, et forcément, on imagine qu'ils gardent pas ça pour eux, donc ça peut créer des tensions.
Bah voilà, ouais, c'est ce qui m'expliquait aussi parmi leurs relations. En fait, ils traînaient surtout avec des camarades qui étaient plus proches de leur idée. Mais comme justement, je vous ai dit qu'il y avait au tout début, c'était 2019-2020, dans ces eaux-là, une promo qui avait vraiment explosé. En gros, ce que nous ont tous dit les étudiants avec qui j'ai pu m'entretenir, c'est qu'en fait, quand ils sont arrivés, Luco leur dit bien de faire attention à ça et de faire très attention que les mêmes erreurs ne se répètent pas.
On continue de parler du dernier numéro de la Topette, mais avant on va faire une pause musicale et écouter Kai Tempest. C'est un artiste britannique, chanteur, rappeur, écrivain, poète, figure du spoken word, et son titre est sorti en juillet dernier, et ça s'appelle Prayers to Whispers, les prières à murmurer. Ça devrait donc faire plaisir à notre cher ami Sterrin. A tout de suite dans le pédalo.
Of course, I smoked outside the door, and we spoke in quiet circles about the pain nothing would cure. We said at least she does not suffer anymore. For every day you couldn't bear, for every night that ran you raw, for all the words you didn't have to name the things you saw, at least you do not suffer anymore. Is useless and impossible to ignore. Is that your shadow in the corner keeping score? At least you do not suffer anymore. Prayers to whisper, drinks to pour, 'cause you have so much left in store. We build a fire, we let it. You had so much left in store. I saw a stranger in a jacket that you wore, and it hurt me to remember the girl I knew before. Well, at least you do not suffer anymore. Even way back then, you were a prisoner of war. Your smiles were twisted as the driftwood that washed up on the shore. At least you do not suffer anymore. The jury's out, decision split. Was it bravery? Was it cowardice? Well, nobody is sure, because we suffer more and more. But we know that you don't suffer anymore. Prayers to whisper, drinks to pour, 'cause you have so much left in store. We build a fire, we let it roar, 'cause you have so much left, you have so much left in store. Prayers to whisper, drinks to pour, 'cause you have so much left in store. We build a fire, we let it grow. 'Cause you have so much left, you have so much left. Maybe we die so others can be born. Maybe we age so others can be young. Maybe the point of life is live, love if you can. Pass it on. We miss you.
C'était Prayers to Whisper de Kai Tempest. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Et aujourd'hui, on reçoit Julien Collier, rédacteur en chef de La Topette, pour revenir sur le dernier numéro du magazine. Alors, pour faire un bond en arrière sur la une autour de ce terrain, on voit aussi, au-delà de Luco, on voit des kartings, parce que l'homme d'affaires met aussi son nez dans le secteur des loisirs, avec des lieux de divertissement qui lui appartiennent, notamment dans le centre commercial de l'Atoll.
Ben voilà, en fait, ce qui nous semblait intéressant, c'est que vu quand même l'argent de Pierre-Édouard Sterrin sert à un projet politique, on pense que ça peut être intéressant tout simplement pour les citoyens de savoir dans quoi il investit. Quand il se rend quelque part, peut-être il finance M. Sterrin, parce qu'il faut savoir qu'il a un gros fonds d'investissement. Son principal outil financier s'appelle Osium Capital. Et en fait, il faut savoir que les bénéfices de ce fonds servent en partie à alimenter directement le fonds du bien commun, qui est son principal outil de mécénat culturel. Donc voilà, on a un peu essayé d'éplucher tout ce qu'il y avait dans le Maine-et-Loire. Alors, pour être vraiment honnête, la plupart de ses investissements sont avant tout dans le numérique. Donc, par contre, vous allez retrouver beaucoup de services en ligne. Mais nous, on s'est vraiment concentré que ce qui était physiquement présent en Anjou. Et en fait, il s'est trouvé quand même un peu le centre névralgique de ses investissements. C'était au centre commercial de l'Atoll à Beaucouzet, en périphérie d'Angers. Et voilà, notamment, il est derrière plusieurs activités de loisirs. Notamment, il y a une activité de karting. Il y a ce qu'on appelle Fort Boyard Adventure. Qui est un peu
oui, il y a même un... Mais comment ça se fait qu'ils puissent utiliser comme ça l'image d'un lieu
J'imagine qu'ils ont payé des droits pour pouvoir utiliser l'image du fameux jeu télé, quoi. Il y a toute une série comme ça d'activités de loisirs.
Et à ça s'ajoute aussi même une chaîne de restauration, c'est ça, la pataterie.
La fameuse pataterie, qui vend des patates au four, c'est assez drôle. Il n'est pas unique actionnaire de cette entreprise, ils sont deux majoritaires, je crois. Mais voilà, ça fait un petit moment aussi que Sterrin est derrière la pataterie.
Mais donc ce qui est terrible, ça veut dire que grossièrement, quand on mange à la pataterie, finalement, une partie de notre argent va indirectement... financer le projet Périclès.
Alors, sur une patate, je ne sais pas trop ce que ça représente, ça n'a pas été énorme, mais effectivement, oui, il y a de l'argent au final qui sert indirectement au projet politique.
Et on peut même y ajouter les smartbox qu'on connaît bien. Bref, enfin, ce terrain, il veut même la mainmise sur le secteur des loisirs. Mais en quoi est-ce que ça l'aide dans sa mission de porter l'extrême droite au pouvoir? Pourquoi est-ce que, comme ça, le secteur des loisirs peut aussi influencer?
Je pense qu'il il investit dans tout ce qu'il peut. Je pense que
C'est pas forcément le fait que ce soit les loisirs, c'est juste que ça rapporte.
Non, voilà. Ouais, je pense que c'est un homme d'affaires aguerri. Il n'a pas fait fortune comme ça non plus. Et il voit ce qui permet de rapporter de l'argent pour ensuite... A priori, c'est pas quelqu'un qui est centré sur l'argent. Il veut, par exemple, ne pas donner d'héritage à ses enfants. Il veut vraiment... tout donner pour son projet politique, et il espère même être béatifié un jour grâce à ça.
Et malgré ce profil sulfureux, Sterrin, il pourra organiser très bientôt ses Nuits du bien commun. C'est une soirée caritative qui rend surtout service à des associations très 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 à droite. Et d'ailleurs, il sera bien aidé par la région qui lui a offert 30 000 euros de subvention en 2024.
Alors ouais, pour être exact, c'était le cas encore l'an dernier. C'est pas le cas cette année, vu que la région a coupé les budgets, en tout cas a coupé à peu près toutes les subventions qui pouvaient exister.
Même pour Sterrin,
il n'y a pas eu. Et ouais, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on avait révélé déjà il y a 3 ans, quand il y a eu la première Nuit du bien commun à Angers. Sterrin n'était pas connu, on avait un peu expliqué qui était derrière. Et voilà, et maintenant, s'il y a une vraie levée de bouclier, les gens sont au courant, je crois même, il y aura même des manifestations d'opposition à Angers contre la tenue de cet événement.
Et d'ailleurs, la présidente de la région, Christelle Morancé, elle a rencontré le milliardaire en janvier dernier.
C'est ça, ouais. Il rencontre beaucoup de politiques. Et ce qui est un peu marrant, c'est qu'il s'amuse à mettre des notes. Par exemple, je crois que Marine Le Pen n'avait pas eu une super note, mais par contre, il a beaucoup apprécié Christelle Morancé. Je crois qu'il lui a mis un 8 ou quelque chose comme ça. Il l'a même surnommé une licorne de la droite. Donc, il a vraiment apprécié sa rencontre avec notre présidente de région.
Mais qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont discuté de quoi, on sait? Ou c'était vraiment une rencontre cordiale?
Ah non, c'est pas du tout. Ouais. C'était une rencontre secrète, en tout cas.
Un milliardaire donc qui est bien aidé par la région et contrairement au monde de la culture, malheureusement on le sait, Christelle Morancé, donc elle a décidé de sortir la tronçonneuse et justement Christelle Morancé, dans la topette, voulait consacrer une demi-page pour fustiger sa rhétorique trumpiste en prenant pour exemple une réunion publique qu'elle a tenue en juin dernier à Beauger et apparemment ça a été musclé.
C'est ça, ouais, elle organise une série de rencontres qui s'appelle La présidente à votre rencontre ou quelque chose comme ça et il se trouvait qu'elle s'arrêtait en Anjou, donc nous on s'est dit qu'on allait aller la voir parce que on ne l'avait jamais vu en fait, en meeting, mais en réunion publique en tout cas. C'est toujours intéressant de voir comment se comportent les politiques avec les citoyens. Et on ne pensait pas faire un article, mais franchement, on a été assez étonnés de la teneur des propos qu'elle a pu tenir. Elle a été vraiment très offensive, elle a attaqué la presse, elle s'est beaucoup victimisée, on a eu l'impression. Et vraiment, en sortant avec ma collègue, on s'est dit, mais oui, c'est une rhétorique complètement trumpiste. Donc le parallèle nous semblait assez pertinent.
Mais c'est parce que ce qui a été dit l'a fait s'énerver ou parce qu'elle est arrivée elle-même avec une espèce de volonté de tout casser, quoi.
Elle arrivait directement en faisant un discours d'à peu près 45 minutes pour essayer de défendre sa politique de coupe budgétaire. Et elle y va pas avec le dos de la cuillère.
Et vous parlez même dans la topette d'éléments de langage qui flirtent avec le populisme.
Bah oui, c'est le cas, parce qu'il y a des contre-vérités, en fait. Il y a des raccourcis assez étonnants. Ouais, clairement.
Quoi, par exemple ?
J'ai plus en tête, il faudrait que je relise l'article, mais... Quel paragraphe c'était ?
C'était notamment sur le fait que certains s'en sortent sans subvention, il y avait ça ?
Ah oui, clairement, oui, y avait vraiment ça, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, dans ce genre de réunion publique, nous, on le voit quand on va assister à des réunions Christophe Béchu, il y a une certaine déférence par rapport au maire, ou en tout cas, c'est un peu une flagornerie de la part des spectateurs, et là, les gens étaient assez remontés. Il y avait certes des gens qui représentaient des associations, mais aussi des habitants de Beaugé. On a même vu un élu de Beaufort-en-Anjou, qui n'est pas une ville très à gauche, qui s'est plaint, en fait, parce qu'il avait peur pour les associations culturelles de sa ville. Et vraiment, elle rentrait dans les gens avec une forme de populisme, en faisant un peu la leçon aux professionnels, notamment du secteur du social. Je sais qu'il y avait une représentante du planning familial où elle était très violente dans ses propos.
Et si elle ne semble pas accorder beaucoup d'importance au monde de la culture qu'elle fustige, elle parle aussi des chars, de l'immobilisme, de la dette, mais par contre elle n'hésite pas à vanter les mérites de l'industrie française, et elle cite en plus des exemples, comme Dassault, Rafale ou Thalès, quoi. Donc c'est vraiment très précis.
Bah c'est ça qui était assez drôle, parce qu'en plus ça s'enchaînait où elle s'est un peu emportée en disant qu'en France on pouvait plus rien faire, qu'il y avait trop de charges, etc. Enfin bref, ce pays avait l'air de pas du tout aller, mais qu'il y avait une chose dont il fallait être fier, c'était notamment Dassault et le Rafale, quoi. Elle a cité trois entreprises d'armement, j'ai plus en tête les deux autres, mais c'était ça qui nous devait, qui devait nous convaincre à être fiers d'être français.
Mais c'était à un moment où c'était vraiment le sujet, l'économie, ou elle a vraiment amené ça d'elle-même ?
Ouais, là, en fait, ça partait un peu dans tous les sens, c'est ça, c'était assez décousu. Et c'est vraiment intéressant, parce que j'ai quand même l'habitude de voir des politiques, et après, ça, c'est juste mon avis personnel de journaliste, hein, mais c'est pas quelqu'un qui est très rodé à cet exercice, en tout cas.
Et c'est une attitude qui est nouvelle, qu'elle est en train de développer, ou est-ce que finalement, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de la croiser dans d'autres événements, ou est-ce que vraiment c'est une posture qu'elle commence à adopter depuis quelque temps, notamment, j'imagine, peut-être depuis qu'elle a fait ses fameuses coupes ?
Non, alors justement, nous, on ne l'avait jamais vue en vrai. En revanche, par contre, on suit ses interviews. Il faut savoir qu'elle ne nous répond jamais. Enfin, on a quand même épinglé notamment un président vice-président de région qui a démissionné suite à des révélations qu'on avait faites. Et on n'a jamais eu de réponse. Elle est dure avec la presse. Nous, on a des amis avec qui on a déjà fait des articles d'un journal qui s'appelle Médiacité à Nantes, qui est un peu un Mediapart local. Il faut savoir qu'Anthony Torzek, journaliste en question de Médiacité, a même été refusé. On lui a refusé son accréditation pour assister au Conseil régional, qui est pourtant un événement public normalement. Donc il y a quand même ce que je vous disais, ce côté trumpiste d'attaque sur la presse qui est assez présent. Et Christelle Morançais a pris une autre stature nationale depuis ses coupes. Elle s'est attirée à la faveur de nombreux titres de presse de droite qui ont encensé son action. Je pense qu'elle y a pris goût, et oui, ça la pousse forcément, vu qu'avant elle était un peu inconnue, hein, c'est juste une élue locale. Elle a gagné une notoriété nationale, ça la pousse forcément à continuer dans cette voie pour sa carrière personnelle.
En remplaçant notamment Bruno Retailleau qui avait quitté la présidence de la région.
C'est ça, ouais, je crois que Bruno Retailleau voulait un peu mettre une inconnue pour se garder la place au show, mais il se trouve que Christelle Morançais a su se faire sa place depuis.
Mais pourtant, quand on lit l'article, et par rapport même à ce que tu disais tout à l'heure, tout le monde dans cette réunion semblait quand même beaucoup en vouloir à Christelle Morançais, peu importe le secteur, hein, il n'y avait pas que des gens du monde de la culture. Du coup, c'est quoi son intérêt de mener cette politique et de parler de cette manière si on sent que derrière, ça ne suit pas forcément ?
C'est vraiment un mystère. C'est une politique pro-entreprise qu'elle assume complètement. Hein. Ça, c'est plaire en tout cas à certaines grandes entreprises. Et elle pense, en tout cas, ce qu'elle affirme, c'est qu'elle est persuadée d'avoir raison et que sa quête est juste. Ça fait un peu penser à Bayrou qui s'est un peu enfoncé tout seul alors que la population rejetait majoritairement son plan budgétaire pour l'année 2026 et qui estime toujours avoir raison avant tout le monde en fait.
Alors aujourd'hui, on s'est quand même beaucoup attardé sur deux des articles, pour ne pas trop en dévoiler, mais il y a évidemment d'autres enquêtes passionnantes. Il y en a sur l'essor des épiceries automatiques, il y en a sur les chaînes de livraison de colis, ou encore sur les dérives sectaires des églises évangéliques angevines. Donc voilà un petit aperçu. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur certains articles qu'on n'a pas forcément évoqués là ce soir ?
Non, alors c'est la topette. Il y a quelque chose qu'on est vraiment attaché, c'est à chaque fois parler d'agriculture, en fait, parce qu'on trouve qu'on en parle mal, en général, dans les médias. Donc nous, on a fait un vrai travail pour s'intéresser à ces choses-là. Et chaque numéro, il y a au moins une enquête. Et vraiment, il y a une super enquête dans ce numéro sur ce qu'on appelle l'élevage intégré, où ce sont des éleveurs, en l'occurrence, qui sont un peu complètement prisonniers et qui n'ont aucune marge de manœuvre par rapport à leur production. C'est vraiment intéressant, ça.
Et qui se retrouvent à acheter, à être obligés, c'est ça, hein, d'acheter des...
C'est ça, ils sont complètement dépendants de leur employeur, entre guillemets, ou de leur coopérative.
Et évidemment, on précise donc que c'est donc 3 euros, c'est ça ?
C'est ça, 3
euros. Et il est toujours disponible. Avant de se quitter, j'aimerais aussi qu'on dise quelques mots sur les 5 ans de la Topette, parce qu'il y a carrément un événement qui est prévu, c'est le 20 septembre au Rond Carré.
Bah ouais, c'est là, en cette rentrée, on fête nos 5 ans, donc on ne pensait pas au début, quand on s'est lancé, forcément arriver jusque-là. On est super content d'y arriver, donc voilà, on va faire une petite fête pour l'occasion, avec des débats. Il y aura notamment Ariane Lavrieux, la journaliste de Disclose, avec qui a co-réalisé l'enquête avec moi sur Pierre-Édouard Sterrin. Puis voilà, il y aura un petit concert organisé après par le Héron, puis ça sera surtout l'occasion de rencontrer nos lecteurs, discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils pensent pour les prochaines 5 années du journal.
Il y a des rencontres comme ça régulièrement qui sont faites avec les lecteurs, ou c'est vraiment une des rares fois où vous avez cet échange avec...
D'habitude, on le fait quand on est invité, ça peut arriver qu'on soit invité par des librairies, des médiathèques, etc., mais c'est rare qu'on l'organise nous-mêmes et... Donc voilà, on a vraiment hâte d'être à ce week-end.
Et pourquoi est-ce que c'est important dans le contexte actuel de célébrer, de mettre en avant les médias indépendants au sens large ?
C'est hyper important parce qu'on a parlé de terrain, mais bon, on pourrait parler de Bolloré, etc., qui a une influence grandissante sur le débat démocratique, et ça, c'est un vrai souci. Nous, on pense vraiment qu'un média doit être dirigé, doit appartenir à des journalistes. C'est super important pour justement garder, en tout cas, au moins une forme d'objectivité, mais surtout bien faire notre travail sans arrière-pensée politique, avant tout. Et heureusement, il y a une presse indépendante qui est de plus en plus dynamique. Voilà, l'idée aussi, par contre, notre défi, c'est de parler à tout le monde et pas que aux convaincus. Et on est vraiment dans une période assez clivée, justement. Il y a des médias très, très marqués à droite. Et il faut que nous, journalistes indépendants, on arrive à parler à tout le monde.
Et c'est facile, là, de... Parce qu'on a vu le prix de 3 euros. Du coup, c'est bien parce que c'est pas très cher, mais c'est couvert sur un petit secteur. Comment est-ce qu'on arrive quand même à vivre et à survivre quand on est un média comme ça? Et surtout, quand on est forcément ombragé par les autres gros médias qui, eux... sont détenus pour la plupart par des milliardaires.
Grâce à nos lecteurs, parce qu'en fait, on s'attendait vraiment pas à en avoir autant, et c'est assez incroyable en fait l'attachement que les lecteurs peuvent avoir à ça, donc ils nous donnent beaucoup de force, et surtout que voilà, on travaille beaucoup, c'est un peu ça le secret, c'est que pour pouvoir sortir des bons journaux avec peu de moyens, faut beaucoup travailler, et voilà, ils nous apportent beaucoup, mais il y a quand même une solide base qui fait que le journal a aujourd'hui l'air insolide.
Eh bien, on vous invite vraiment vivement à acheter La Topette. On rappelle que c'est donc au prix de 3 euros. Merci beaucoup, Julien Collier, d'être venu à notre micro, donc rédacteur en chef de La Topette. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Mathias, à la technique. La programmation continue sur le 103 FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.